Faut-il rêver d'un monde où régnerait une totale liberté d'expression? C'est la question qu'En Ligne Directe vous pose ce matin. Jérôme Zimmermann, bonjour.
Bonjour.
Jérôme, on fête cette année les 20 ans de la norme pénale antiraciste en Suisse. Et justement, voilà que paraît un livre qui questionne l'utilité de ce genre de normes pénales. Le livre s'appelle « La République des censeurs » et il plaide pour la liberté d'expression la plus large possible.
Oui, alors on a beaucoup évoqué cette question de liberté d'expression en raison du spectacle controversé de Dieudonné, mais on y revient aujourd'hui à tête reposée avec ce plaidoyer de Jean Bricmont pour une liberté d'expression totale dans la République des censeurs. L'auteur belge estime que toute opinion doit pouvoir être exprimée, même la pire, un principe qui permettrait ainsi au débat d'avancer plutôt que de stagner à la condamnation de celui ou celle qui l'a formulé.
Alors on imagine que le modèle en la matière c'est les États-Unis où la liberté d'expression est garantie solennellement par la Constitution.
Oui, et cela va aussi à contre-courant des lois contre le racisme en France et qui a été adoptée il y a 20 ans en Suisse, des lois qui finalement produiraient plus d'effets pervers d'après la République des censeurs. Alors, doit-on tout de même préserver certains tabous ou faut-il tolérer tous les discours et toutes les propagandes? En somme, est-il plus risqué de vouloir censurer ou vouloir d'ouvrir toutes les portes?
On a un débat à l'instant avec nos trois invités et avec vous, puisque vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0823 33 33 pour réagir ou bien passer à l'antenne. Vous écoutez La Première, c'est En Ligne Directe.
En Ligne Directe, Renaud Malik.
Et ce matin, en duplex de Bruxelles, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Bricmont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien.
Bonjour.
Vous êtes physicien, professeur à l'université de Louvain en Belgique et vous venez de publier La République des censeurs, c'est paru aux éditions de Lerne. Jean Bricmont, première question, vous avez l'impression que la liberté d'expression est menacée en Europe aujourd'hui?
Écoutez, ça dépend toujours de ce que vous voulez dire, mais évidemment, oui, je pense que les lois antiracistes... donc, mon objection, c'est pas que je sois pour la liberté d'expression totale a priori, je suis contre l'arbitraire et contre les effets pervers qu'engendre la soi-disant lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Dans mon livre, je donne plusieurs exemples d'arbitraire. Il y a des... Par exemple, je sais pas, vous prenez le présentateur sur France Inter de là-bas, chez Issu, Daniel Mermet, vous prenez le dessinateur ciné, vous prenez le sociologue Morin, tous ces gens ont été traînés devant les tribunaux pour incitation à la haine raciale, alors qu'ils avaient fait des propos, soit des propos ironiques sur une conversion supposée du fils de Sarkozy lors d'un mariage, ou des propos critiques vis-à-vis de la politique israélienne ou de l'État d'Israël, et ces gens sont poursuivis au tribunal pour incitation à la haine. On fait des lois mal faites parce qu'on utilise des expressions mal définies comme incitation à la haine, alors on arrive nécessairement à l'arbitraire. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'évidemment, quand vous censurez des opinions, vous les rendez, en fait, parce qu'il y a des procès, ça devient public, etc., vous les rendez plus visibles. Et en plus, beaucoup de gens vont se dire, si on nous interdit de dire cela, c'est parce que c'est pas politiquement correct, etc., et ça va en fait renforcer les opinions qu'on estime vouloir censurer ou au moins combattre, comme ils disent.
Donc,
pense que s'il faut les combattre, il faut les combattre par un débat contradictoire.
Donc ce que vous dites, Jean Bricmont, c'est que cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme, par la censure, elle entretient surtout un climat de dénonciation et que ce climat, en fait, permet pas vraiment de faire évoluer les mentalités dans le bon sens. C'est en gros message.
Non, il y a deux messages. Il y en a un, c'est que c'est aussi l'arbitraire. Prenez par exemple les appels au boycott. Je donne des tas d'exemples de gens qui ont boycotté, je sais pas, la Chine ou même parfois le Mexique ou la Corse ou je ne sais pas quoi. Et évidemment, seuls les appels au boycott d'Israël sont poursuivis dans les tribunaux. De nouveau, il y a deux poids, deux mesures. Je dis que quand il s'agit, et c'est une remarque qui n'est pas originale, elle remonte au XVIIIe siècle, c'est que si vous parlez d'expression d'opinion, la flexibilité de la pensée humaine est telle que vous tombez toujours dans le deux poids deux mesures si vous voulez censurer ces expressions d'opinion et par conséquent dans l'injustice et l'arbitraire, et qu'en plus évidemment vous avez ce phénomène vous faites de la publicité aux opinions en les poursuivant et que les gens ont l'impression qu'on vous cache quelque chose si vous empêchez de discuter de toutes les questions qu'on attaque ou non, l'antiracisme, la lutte contre le négationnisme, etc.
Jean Bricmont, vous dites que ces normes sont un peu le produit de la gauche morale, c'est ce que vous écrivez. C'est quoi au fond la gauche morale? Est-ce que c'est quelque chose, une entité qui existe, quel que soit le pays, Suisse, France, Belgique?
Écoutez, je ne connais pas bien la situation en Suisse, mais en France, c'est évident qu'à l'époque de Mitterrand, ce qui s'est passé, c' 'est que la gauche, de façon progressive, a abandonné son programme social, s'est convertie au libéralisme, peut-être pas ouvertement, mais de plus en plus ouvertement maintenant, et a dû trouver alors une définition de ce que c'est être de gauche, puisqu'elle faisait une politique économique de droite, enfin, ou qui était de droite dans le temps, et évidemment, alors elle a inventé, enfin je dis pas que c'est une invention délibérée, mais on a inventé la lutte contre le racisme, le fascisme, etc., comme motivation d'être de gauche, mais seulement, évidemment, cette lutte est totalement, à mon avis, contre-productive. Ils n'arrêtent pas eux-mêmes de se plaindre que le racisme monte, etc., etc. Et en fait, c'est ça ce que j'appelle la gauche morale, c'est-à-dire, au lieu de se préoccuper des intérêts du peuple, on lui fait la morale en disant, voilà, soyez pas homophobes, soyez pas sexistes, soyez pas racistes, etc., soyez pas nationalistes, et par conséquent, on crée une situation qui me paraît totalement catastrophique, et on le voit dans l'évolution récente, où, effectivement, les gens se détachent de cette gauche morale et cherchent une alternative, souvent du côté du Front National, pour ce qui est des travailleurs, par exemple.
Une situation catastrophique, une lutte contre-productive, on va en débattre. Dès maintenant, Jean Bricmont, restez évidemment avec nous. On rappelle que vous êtes en duplex depuis Bruxelles. Et ce matin, Thierry Barrigue et Philippe Quesnel sont également avec nous. Bonjour, messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Thierry Barrigue, vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique Vigous. Philippe Quesnel, vous êtes avocat en Suisse, mais aussi, tiens, à Bruxelles. Vous êtes par ailleurs le président de la LICRA Suisse et vous avez lu hier soir le livre de Jean Bricmont. Vous en êtes délecté. Ça vous a plu ?
Écoutez, moi je crois que il faut lire le livre de Monsieur Bricmont, parce qu'au fond, quand vous l'entendez aujourd'hui à la radio, il est très poli, très neutre, etc. Il faut voir quelle est l'idéologie qui se cache derrière la position prise aujourd'hui par Monsieur Bricmont dans son livre. Et au fond, c'est quoi ? C'est au fond, il utilise la liberté d'expression comme un cache-sexe. Au fond, c'est le cache-sexe pour que les idées d'extrême droite puissent se répandre beaucoup plus facilement. Il y a un grand coupable, c'est la gauche, c'est évidemment la LICRA dont je suis le président en Suisse, il s'attaque évidemment à Monsieur Yakubovitch, il s'attaque à Bernard-Henri Lévy, puis alors il finit son livre, et ça, si vous voulez, c'est quand même le symbole aujourd'hui de ce discours d'extrême droite, c'est qu'au fond, il dit, oui mais au fond, c'est négationniste ou pas négationniste, le problème est pas là, il pose la question, il dit, au fond, je le cite, imaginons qu'on oublie toute l'occupation et des persécutions antisémites. Pourquoi cela provoquerait-il une nouvelle invasion de la France et une nouvelle collaboration ? Peut-on suggérer que le devoir de mémoire n'est souvent que le nom actuel de ce que l'on appelle les djihadistes, l'entretien des haines ? Et puis, il finit en disant, ah, au fond, on devrait revenir à l'édit de Nantes qui disait, au fond, il faut oublier le passé. Donc, c'est très grave, vos positions. Non. Parce que vos positions, attendez que je termine, parce qu'au fond, c'est même dire, on dit même plus que ça existe ou que ça n'existe pas, on dit au fond non. La mémoire n'existe, n'est plus nécessaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça soit pour beaucoup de choses, que ça soit pour les génocides, mais pour beaucoup de choses, on sait que la mémoire, que l'histoire est importante. Et au fond, vous utilisez cette lutte noble pour la liberté d'expression comme un cache-sexe pour faire passer des idées nauséabondes.
Philippe Quesnel, on va quand même entendre Jean Bricmont vous répondre. Jean Bricmont, vous avez entendu, bah oui, j'imagine, vous avez assez bien entendu, idée que finalement, c'est un peu une insulte à la mémoire que de plaider pour une liberté d'expression plus grande. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Justement, mais écoutez... D'abord, ça, je trouve ça absurde. Il y a rien dans mon livre qui est d'extrême droite. Les exemples que j'ai donnés, Siné, Mermet, Morin, sont des gens considérés à gauche ou à l'extrême gauche. Les textes dont sur lesquels je me base de Chomsky sont considérés à gauche ou à l'extrême gauche. Donc ça, cette histoire que je suis lié à l'extrême droite est absurde. Pour moi, c'est la censure qui est d'extrême droite. Quand j'étais jeune, par exemple.
C'est les victimes qui deviennent les bourreaux, c'est classique.
Attendez, Philippe Quesnel.
Oui. Oui, bien sûr. Mais quand j'étais jeune, par exemple, on interdisait la question d'Henri Alec qui dénonçait la torture dans la guerre d'Algérie. On interdisait le film La religieuse de Jacques Rivette qui était basé sur un roman de Diderot, etc., etc. Donc cette histoire que la censure est de gauche ou d'extrême gauche, ça me paraît une absurdité complète. Mais comme j'ai dit, ça fait partie de ce que la gauche morale est devenue. Mais je pense que c'est une catastrophe et une erreur. En quoi est-ce que c'est d'extrême droite quand je dis le devoir de... je critique le devoir de mémoire, je critique le devoir, mais je ne critique pas les gens qui ont envie de se souvenir du passé. Mais chacun a le droit de se souvenir du passé dont il a envie de se souvenir. Les gens peuvent se souvenir de la Première Guerre mondiale, d'autres peuvent se souvenir de l'esclavage, je ne sais pas. S'ils ont envie de se souvenir, je dis simplement que l'État doit être neutre par rapport à ça. Dans la mesure où l'État interdit la contestation d'un événement historique et d'aucun autre, c'est ça ce qui est important, d'aucun autre, alors évidemment, il me semble que là, on instaure une mémoire officielle, et c'est un peu comme instaurer une religion officielle. Pour moi, la mémoire, c'est comme la religion, ça doit être, d'un point de vue laïque, en dehors des affaires publiques, c'est tout. Et quand je dis, si on oubliait toute la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça provoquerait une nouvelle invasion? Ben oui, c'est une question. Comme je dis, si qui sait ce que c'est exactement ce qu'était la Saint-Barthélemy et qui veut persécuter les protestants? Je veux dire, il y a quelque chose de surréaliste de vivre dans une société aussi apaisée que la nôtre, où il y a si peu de conflits ou de possibilités de conflits ethniques ou de persécutions ethniques, et de rappeler tout le temps le passé comme s'ils allaient s'entretuer, s'égorger demain.
C'est non, mais quand vous recommandez de suivre les dites non et Henri IV, c'est pas, vous ne mettez pas en point d'interrogation.
Non, mais je. Non,
vous c'est savez pas, manier non, le point d'interrogation avec. Mais oui, vous savez très bien le manier avec beaucoup d'extérité, mais là, il n'y en a pas sur votre conclusion. C'est.
Non, j'ai pas. Sur l'édit de Nantes, j'ai dit l'édit de Nantes. Imposer le devoir d'oubli, et je ne suis pas pour que l'État impose quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas pour l'édit de Nantes, mais je rappelle que c'est la révocation de l'édit de Nantes qui fait que l'édit de Nantes est connu, et c'est sa révocation qui a mené à une nouvelle persécution. Et l'édit de Nantes était fait pour qu'on oublie le passé, qu'on oublie les guerres de religion qui avaient ensanglanté la France, et je trouve que ce devoir d'oubli était au moins aussi raisonnable que le devoir de mémoire. Et je ne pense pas que le devoir d'oubli, si vous voulez, engendrerait plus de conflits que le devoir de mémoire. Mais moi, je suis contre le fait que l'État impose l'un ou l'autre. Donc, je ne suis pas pour l'édit de Nantes. Je fais cette réflexion à la fin parce qu'effectivement, ça m'a frappé quand je l'ai lu de me dire, tiens, dans le fond, c'était peut-être pas plus déraisonnable que les médecines actuelles qui consistent à se rappeler tout le temps des choses. Par exemple, on va interdire les spectacles de Dieudonné au nom de la mémoire. Alors, en fin de compte, on ne les interdit pas parce qu'ils existent. En fin de compte, ils passent quand même sur YouTube et dans les médias sociaux. En fin de compte, il est quand même populaire. Et toute cette agitation, il n'y a personne qui va... Il n'y a aucun trouble à l'ordre public à la sortie des spectacles de Dieudonné, absolument aucun, jamais eu. Et donc, on fait tout un foin, si vous voulez, au nom de ce devoir de mémoire, on s'agite et on crée des haines artificielles et des conflits artificiels en particulier. Oui, oui. Et en particulier avec les gens d'origine musulmane, parce que à cause du biais pro-israélien de toutes ces poursuites.
Oui, comme par hasard.
Et donc, on crée des conflits artificiels dans une société où, en fait, il n'y a personne qui va aller s'entretuer sur une base ethnique et où il n'y a pas de guerre entre l'Allemagne et la France qui soit concevable. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait irrationnel, c'est ça qui m'énerve, il y a quelque chose d'irrationnel et de religieux dans cet usage du devoir de mémoire. Mais après, les gens ont le droit de se souvenir de ce qu'ils veulent, c'est pas ça la question. Je dis simplement que l'État ne doit pas intervenir là-dedans. C'est...
8h20, vous écoutez La Première, on s'interroge ce matin sur la liberté d'expression. Doit-on laisser à toutes les opinions, quelles qu'elles soient, le droit de s'exprimer publiquement? Faut-il renoncer à toute forme de censure étatique? Vos appels dès maintenant au 0800 23 33 33. Mais tout de suite, Jérôme Zimmermann, un coup d'œil sur les réseaux sociaux. On a également mené le débat hier soir et on a réagit assez vivement également.
Oui, les internautes se montrent plutôt sensibles à la liberté d'expression totale. Hein. Par exemple, Johan Silly, vice-président des Jeunes UDC Suisse, estime que tant qu'il s'agit strictement de l'expression d'une opinion sans calomnie, voilà, la liberté doit être absolue. Ariane, sur Facebook, écrit que le débat, conçu comme un vrai sport de combat intellectuel, reste le seul moyen légitime et véritablement efficace pour contrer les discours haineux. En d'autres termes, la liberté d'expression reste la meilleure arme pour protéger la démocratie et la dignité humaine. Mais attention, estime un autre internaute, tout dire peut-être, mais pas n'importe comment. Si je parle à quelqu'un dont les opinions et les informations divergent des miennes, rien ne m'oblige à être arrogante, humiliante ou insultante, ni non plus à accepter des violences verbales d'ailleurs. Enfin, d'autres internautes estiment plutôt qu'il s'agit d'une utopie. Comment pourrait-on accepter, par exemple, que l'on appelle au meurtre?
On n'a pas encore entendu le rédacteur en chef de Vigous.
Ça tombe bien.
Thierry Barrigue, voilà, ça tombe bien. Bon, un monde sans censure étatique, c'est pour cela que plaide Jean Bricmont. Ça vous fait rêver, vous?
Non, pas du tout. Moi, j'aimerais un peu élargir le débat, recentrer le débat sur la liberté d'expression d'une manière générale, parce que là, on se focalise un petit peu sur le devoir de mémoire, qui est important, mais je voudrais qu'on l'élargisse. Vous savez, nous, à Vigous, par exemple, on pourrait s'imaginer un hebdomadaire satirique dirigé par un dessinateur qui fait dans la satire depuis 42 ans. Ouvrons les barrières de la liberté totale, allons-y franchement. Je n'y crois pas, je pense que la liberté d'expression doit correspondre également à une éthique. Vous savez, par exemple, à Vigous, depuis 4 ans et demi, nous avons eu quelques procès. Actuellement, nous avons une plainte pénale et deux procès. Eh bien, c'est parfaitement pénible à vivre. C'est pour injure et calomnie. Eh bien, je trouve finalement normal que nous ayons ces procès, parce que ça fixe des règles. Parce que s'il n'y a plus de règles, si c'est la liberté totale et on ouvre les vannes de la liberté d'expression totale, on regarde évidemment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou autre. Nous avons fait quelques démonstrations dans Vigous de ce qui était publié. Et c'est assez nauséabond. Si tout à coup, il n'y a plus de règles pour vivre ensemble, pour se respecter les uns et les autres, eh bien, ça sera tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pas envie, si vous voulez, enfin, je voudrais rajouter quelque chose qui a été dit tout à l'heure, pour prendre l'exemple de Ciné. Évidemment, c'est un dessinateur, nous sommes proches, nous avons la même sensibilité, d'une certaine manière, la même pratique du métier, d'une certaine manière. Finalement, Ciné a été effectivement poursuivi, il a eu une plainte, il y a eu un procès, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu débat. Et il a été relaxé. Donc, effectivement, je pense que c'était utile qu'il y ait, quelque part, cette règle de pouvoir fixer des limites et en débattre. Après, il a été relaxé.
Jean Briquemont, la norme pénale antiraciste, c'est vrai, ça c'est pas seulement quelque chose qui sert à punir, ça sert aussi à fixer des limites. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire Thierry Barrigue?
Je vais répondre. D'abord, premièrement, les gens qui défendent la liberté d'expression ne défendent jamais le droit d'injurier des gens et de faire des calomnies. On parle de liberté d'expression, des idées abstraites sur la politique, sur les sciences, les pseudosciences, les religions, la philosophie, les événements historiques, etc., ou les groupes humains, et tout ce que vous voulez. Ça, c'est la liberté d'expression à ce niveau-là. Ce n'est jamais la question d'injurier des gens et des calomnies. Donc si Vigous est poursuivi pour cela, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi je plaide, et je ne plaide pas pour qu'on puisse insulter n'importe qui, n'importe quand. C'est pas ça la question. Pour ce qui est de Ciné a repris une information qui était dans Libération, qui faisait état du fait que Jean Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, allait se convertir au judaïsme au moment où il épousait la fille des époux d'Arty, la fille de la exact. Maison d'Arty. Donc bon. Et c'était littéralement comme ça dans Libération. Il a repris mot pour mot la phrase de Libération et il a ajouté « il fera du chemin dans la vie ce petit ». Donc il s'est moqué, si on veut, de l'opportunisme d'un mariage, pour des raisons de circonstances, d'une conversion pour des raisons de circonstances lors d'un mariage, qui est évidemment quelque chose de tout à fait banal. L'information apparemment était fausse, mais Libération n'a pas été poursuivi pour cela. C'est Ciné qui était poursuivi, il était poursuivi non pas par Jean Sarkozy, non pas pour calomnie, mais pour antisémitisme. Évidemment, il a gagné, mais qui a envie d'aller de se trouver au tribunal pendant quelques années, de devoir avoir des frais d'avocat, d'avoir son nom traîné dans la boue? Ce genre d'information joue un rôle extrêmement dissuasif par rapport à n'importe qui pourrait faire état de, je sais pas, de position sur ces sujets qui sont controversés et qui ont à voir avec le rôle des organisations.
On revient un petit peu à la crise, etc.
Non, mais attendez.
Pardon.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'injure. Ça n'a rien à voir avec l'injure. Alors, il y a une question que je me pose toujours aux adorateurs de la censure, c'est comment se fait-il, si c'est tellement nécessaire pour le vivre ensemble, comment font les États-Unis? Comment font-ils pour avoir un président qui a été élu deux fois et dont le père est africain? Je veux dire, là, évidemment, il y a tout, si vous voulez, tout est autorisé. Ce n'est pas à cause de la Constitution, c'est à cause d'une interprétation de la Constitution qui a été donnée par la Cour suprême dans les années 60. Avant, il y avait des tas de poursuites pour toutes sortes de délits d'opinion, sur la guerre, sur les questions sexuelles, etc. Mais, par exemple, chez nous, maintenant, il n'y a pas de poursuite. Par exemple, un film comme le film de Jacques Rivette, ou si vous voyez La vie d'Adèle, etc., personne ne va censurer ça. Donc, les censures, si vous voulez, quand vous réfléchissez, la censure dans le temps tournait autour du sexe, la religion, la morale, les bonnes mœurs. Maintenant, elle est tournée sur le racisme et des choses comme ça. Mais évidemment, toutes ces censures sont mortelles et elles finiront par changer.
Vous êtes un héritier de mai 68, il est interdit d'interdire.
Oui, mais c'est les héritiers de mai 68 qui interdisent à tout
voilà,
prendre. Ils se rendent compte que c'est eux qui sont
c'est vraiment
l'hypocrisie la plus totale. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils se sont mis à interdire. Moi, je suis toujours pas d'accord. Mais c'est pas qu'il est interdit d'interdire. On a le droit d'interdire toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions, comme je le dis, les insultes, les calomnies, etc. Et c'est pas héritier des mai 68, c'est héritier des Lumières, c'est héritier de Bentham, de Mill, de Voltaire, de Robespierre. Je cite abondamment un discours de Robespierre au début du livre. Et les idées étaient très claires à l'époque, et c'est toujours les mêmes idées qui...
Est-ce que vous savez...
Dans tous les cas, Philippe Chesnel, ça vaut le coup peut-être de s'interroger quand même sur cette norme pénale antiraciste dont, on l'a dit, on fête cette année les 20 ans. Est-ce que le bilan est si positif que ça? Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que cette norme, 20 ans après, elle a permis de faire reculer les discriminations, faire reculer le racisme, l'antisémitisme?
Écoutez, moi j'aurais préféré qu'elle n'existe jamais si le problème s'était jamais posé. Le problème, comme le problème s'est posé, on l'a introduite et le peuple suisse l'a voté. Alors, Malheureusement, des associations comme nous, comme beaucoup d'autres, de droite et de gauche, hein, parce que ce discours anti-gauche, soi-disant que seuls les gens qui luttent pour contre le racisme et l'antisémitisme sont des gens de gauche, est totalement faux. Le racisme existe malheureusement dans tous les partis, et dans tous les partis, que ça aille du centre-droite à gauche, il y a des gens qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme. Mais ceci dit, est-ce que ça a fait évoluer les choses? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, il a fallu qu'on sanctionne, que je trouve que c'est très bien, comme notre ami de Vigous l'a dit, de mettre des limites. Maintenant, alors certains disent, et d'ailleurs M. Bricmont dit, mais au fond, ces normes d'interdiction, ça engendre le racisme. Hein. En fait, pour finir, c'est nous qui luttons contre le racisme qui sommes quasiment co-responsables. Qui sommes quasiment co-responsables du racisme. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Alors, je veux dire, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur les endroits où, au fond, la norme pénale a peu d'emprise. C'est quoi? C'est malheureusement le site internet. On aura une conférence là-dessus. J'invite tous les auditeurs à venir à la 48e convention de la LICRA, samedi après-midi à Genève. Mais le problème, c'est que dans les zones de non-droit, mais ça s'exacerbe beaucoup plus. Donc, on voit quand même que cette norme aide le vivre ensemble. Et c'est vrai que c'est pas facile.
Et malgré tout, Philippe Canel, il faut reconnaître quand même à quel point c'est dur parfois de fixer la limite entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Et on l'a vu peut-être récemment avec le cas de ce nationaliste turc qui, condamné par la Suisse pour avoir tenu des propos niant le génocide arménien, c'était lors de conférences publiques. Alors ça s'est retrouvé jusqu'à Strasbourg. Or, la Cour européenne a rendu un verdict défavorable à la Suisse, expliquant que le droit à la libre expression de cet homme avait été bafoué. Voilà. Bon, on voit bien quand même que la limite, elle varie, elle est très flexible, et que peut-être il y a un peu d'arbitraire, comme le dit Jean Bricmont.
Évidemment qu'elle varie. Évidemment que c'est dur de mettre la limite. Peut-être que dans 50 ans, il y aura de nouveaux éléments qui rentreront dans cette norme. Je veux dire, évidemment que c'est dur. Mais c'est pas parce que c'est dur que c'est pas un travail auquel il faut s'atteler. Et je crois qu'effectivement, nous, par exemple, avec la LICRA, on fait un gros travail dans les écoles. Et ben, effectivement, pourquoi? Mais c'est parce que il faut commencer jeune et ensuite, malheureusement, il faut continuer adulte à interdire quand c'est pas admissible.
Jean Bricmont, ce cas récent, qu'est-ce qui vous inspire, vous?
Ben justement, je pense qu'il illustre ce que vous dites, c'est-à-dire que quand il y a eu cette affaire de ce monsieur turc en Suisse, ben évidemment là on a dit voilà, violation de la liberté d'expression. Quand il s'agit du génocide des Juifs, c'est pas violation de la liberté d'expression. On tombe dans deux poids deux mesures et on a les effets pervers qui les gens vont dire voilà, il y a quelque chose qu'on nous cache dans l'histoire du génocide juif. Ça c'est inévitable, il faut payer le prix de la censure si on veut prendre cette voie. Il faut aussi se rendre compte que par exemple, c'est assez comique de voir que ces gens qui sont souvent d'origine 68 tarde et qui sont pour la censure se trouvent maintenant dans la situation de l'arroseur arrosé avec l'affaire Dieudonné, parce que ils ont donné l'arme de la dérision à leurs adversaires, alors que évidemment ils utilisaient la dérision en 68 contre, mettons, la morale catholique et des choses comme ça, et maintenant ils se trouvent dans la situation où la dérision, l'humour, etc. Est utilisée contre eux.
Jean Bricmont.
Attendez, je vous réponds à la question d'Internet. L'Internet prouve ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce qui se passe avec la répression, c'est qu'elle ne change pas les idées des gens. Alors les gens expriment leurs idées d'abord en privé, ils l'ont toujours fait. Ça s'est toujours fait, ça s'est fait dans les pays communistes, ça s'est fait à l'époque où régnait l'Église, la censure catholique, etc. Et ça se fait en privé, et alors ça se fait maintenant par Internet. Mais justement, l'Internet, c'est la mesure de l'écart qu'il y a entre ce que les gens pensent réellement et ce qu'on peut dire dans le discours officiel. Mais dans le discours officiel, on ne peut pas débattre des opinions qu'on veut combattre. On dit qu'on les combat par la censure, c'est qu'on les empêche de s'exprimer au niveau officiel. Mais on ne les empêche pas de s'exprimer dans la tête des gens. Or, c'est dans la tête des gens que la bataille devrait se mener. C'est là où le problème se pose. Et l'Internet montre ce que les gens pensent réellement. Et là, on voit ce que les gens pensent réellement. Et ça, je suis le premier à dire que c'est une série d'horreurs. Mais si on veut combattre ces opinions, je prétends qu'il faut en débattre et pas les censurer, c'est tout.
Vous plaidez pour une société finalement libérée de toute forme de censure étatique. Est-ce qu'il y a en Europe un seul Est-ce qu'il y a un seul pays en Europe qui est appliqué, qui applique encore aujourd'hui ce modèle ?
Je pense que les pays scandinaves sont comme ça. Je ne connais pas bien les détails des législations, mais je pense que l'Angleterre est plus ou moins comme ça, sauf pour les questions de poursuite, disons, en termes de... je pense que l'Angleterre est plutôt comme ça, oui. Et de toute façon, c'est pas ça. Et alors, je pourrais répondre, évidemment, que c'était le cas de la France avant ces lois antiracistes, si vous voulez. C'est-à-dire que, évidemment, il y avait un certain arbitraire qui jouait en cas de guerre, en cas d'atteinte aux bonnes mœurs, etc. Mais, évidemment, ce qui est frappant, c'est ce retournement dans la gauche, qui est passé d'un moment où il défendait en général la liberté d'expression contre la censure étatique, militaire ou ecclésiastique, et à un moment où maintenant ils se sont mis à la défendre. Et je pense que c'est un retournement qui est une erreur totale de leur point de vue.
Et c'est vrai que la gauche est franchement...
Bien sûr, il n'y a pas que la gauche, mais je ne suis pas d'accord.
La gauche est partout, cher monsieur. La gauche est à la bourse. La gauche est partout.
Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un de gauche. Un ex-68ard. Je suis totalement du centre. Et je veux dire, vous vivez avec des images reçues que vous essayez de colporter. Et je suis désolé, mais vous prenez la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on n'a pas pu en placer une parce que vous essayez de monopoliser tout le discours.
Bon.
Invité pour parler du livre.
Jean Bricmont, plus sérieusement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu un raccourci que de faire porter à la gauche la responsabilité de tout cela?
Non, mais j'ai pas dit que c'est la responsabilité. J'ai dit que ce qui était catastrophique, c'était le retournement qu'il y a eu dans la gauche. C'est-à-dire qu'en prenant ce point de vue, ils ont donné à leurs adversaires l'arme de la dérision, l'arme de la transgression, etc. Et c'est ça ce qu'on observe dans le phénomène, par exemple, de Dieudonné. Et je pense que j'ai pas dit que c'était eux qui étaient responsables de tout. J'ai dit que ce qui s'est passé à l'époque des années Mitterrand, c'est cette transformation de la gauche sociale en une gauche morale. Et ça, je pense que c'est une erreur. Et dans la gauche morale, vous avez cette volonté de censurer. Mais je ne dis pas que la censure vient uniquement d'eux. J'ai jamais dit ça.
C'est le mot moral.
Évidemment, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, si vous regardez les discours en France, les gens qui défendent le plus la liberté d'expression, c'est l'extrême droite. Et donc, si vous défendez la liberté d'expression, comme
oui,
on
ça coupe leur discours,
émission,
vous en êtes la preuve.
On est considéré comme d'extrême droite. Mais c'est une absurdité complète d'un point de vue historique. Il suffit de regarder les arguments en faveur de la liberté d'expression. Ils n'ont jamais venu de l'extrême droite.
8h.
Évidemment, Hitler, Mussolini et tout ça, ils n'étaient pas pour la liberté d'expression.
8h34, c'est la fin de cette édition dans l'indirect. On retiendra, Jean Bricmont, que vous n'êtes pas forcément favorable à une liberté d'expression totale, mais que vous plaidez en revanche pour la fin de toute forme de censure étatique, car toute censure, oui, dites-vous, sûr, est contre-productive. On rappelle le titre de votre livre, La République des censeurs, c'est paru récemment aux éditions de Lerne. Merci à vous trois, Thierry Barrigue, Philippe Quesnel, Jean Bricmont. Merci à vous, Jérôme Zimmermann. À demain pour une nouvelle édition dans l'indirect.